Vie de Maître Roux, peintre et architecte florentin. Les hommes estimables par leurs vertus et qui constamment les pratiquent deviennent aussi, parfois, lorsqu'on s'y attendait le moins, célèbres aux yeux de tout le monde. On en peut évidemment juger d'après la réputation que Leroux, peintre florentin, s'acquit dans son art. Si ses ouvrages ne furent pas goûtés à Rome ainsi qu'à Florence, par ceux qui pouvaient l'en récompenser, on lui rendit néanmoins en France assez de justice pour que la gloire qu'il y acquit étanchât la soif que vers l'ambition peut éprouver tout artiste. Au milieu d'une pareille existence, il ne pouvait obtenir de titre d'honneur ou de plus grande dignité, puisqu'il fut agréable à François Ier qu'il estima plus que tout autre. À la vérité, son mérite était tel que si le sort l'eût moins favorisé, il lui eût fait grande injure. Outre ses talents en peinture, Leroux était doué d'une très belle tournure. Il avait une manière de parler agréable et assurée, était très bon musicien, discutait parfaitement en matière philosophique, et, ce qui surpassait toutes ses excellentes qualités, c'est qu'il était toujours très poétique dans ses compositions, savant et fier dans son dessin, agréable dans son style et supérieur dans les choses extraordinaires. Il fut aussi excellent qu'étonnant architecte, et quoique toujours peu fortuné, il était doué d'une âme grande et élevée. Aussi, ceux qui dans son art pourront obtenir le même rang seront toujours aussi vantés que le sont ses ouvrages, exécutés avec une hardiesse et une telle facilité qu'ils ne se ressentent pas de cette manière sèche et froide qu'emploie la plupart pour donner aux leurs quelques prix. Leroux, dans sa jeunesse, dessina d'après les cartons de Michel-Ange, mais il suivit la manière de peu de maîtres, ayant des idées opposées, comme on peut le voir hors de la porte de Saint-Pierre Gattolini de Florence et à Marignolle, où il peignit à fresque sur un tabernacle un Christ mort pour Pierre Bartoli, et où il commença à prouver combien son style était grand, sublime et plus étonnant que celui des autres. Dans sa jeunesse, il représenta sur la porte de Saint-Sébastien des Pères Servites lorsque Pape Léon éleva au cardinalat Laurent Pucci. Les armes de cette famille, accompagnées de deux figures. Cet ouvrage étonna d'autant plus les artistes du temps qu'on ne s'attendait pas qu'il y réussît. Son génie augmenta tellement qu'ayant fait à Maître Jacques, frère Servite qui s'adonnait à la poésie, un tableau représentant la Vierge et Saint-Jean l'Évangéliste à Micorne, ce dernier le détermina à peindre dans la cour des dix Servites, en pendant de la Visitation de Jacques de Panthorne, l'Assomption de la Vierge, dans laquelle il peignit une gloire d'ange nu qui danse autour d'elle et qui l'accompagne dans un si bel ordre et un style si agréable que si son coloris eût marché de front avec le degré de science qu'il acquit par la suite, Leroux se fût surpassé de beaucoup dans cet ouvrage par la pureté et la sublimité de son dessin. Il y représenta les apôtres couverts de riches draperies dans des attitudes et avec des caractères de tête de la plus grande beauté. Le directeur de l'hôpital de Sainte-Marie-la-Neuve lui fit faire pareillement un tableau dont l'ébauche lui parut, comme à celui qui se connaît peu en peinture, représenter plutôt des diables que des saints. Leroux ayant coutume dans ses ébauches à l'huile de donner à ses têtes certains caractères fiers et terribles, qu'il adoucissait en terminant ses ouvrages pour les ramener à un degré de supériorité. Aussi, ce directeur prit la fuite et ne voulut point de ce tableau, prétendant que Leroux l'avait trompé. Il peignit aussi sur une autre porte, par laquelle on entre dans le cloître du couvent des frères Servites, les armes du pape Léon, supportées par deux enfants. Cet ouvrage est aujourd'hui gâté. Dans les maisons de quelques particuliers, on y voit de lui plusieurs tableaux et beaucoup de portraits. À l'arrivée du pape Léon X à Florence, il fit un très bel arc de triomphe du côté des Bischeri. Il peignit ensuite pour le seigneur di Piombino un très beau tableau représentant un Christ mort et lui fit aussi une petite chapelle. À Volterre, il peignit de même une très belle descente de croix. Son mérite et sa réputation n'ayant fait qu'augmenter, il exécuta au Saint-Esprit de Florence le tableau des Dei, famille éteinte, qui en avait déjà confié l'exécution à Raphaël d'Urbain, lequel ne s'en chargea pas vu les travaux qu'il avait à Rome. Leroux se distingua dans cet ouvrage par la grâce, la beauté de son dessin et la vivacité de ses couleurs. Jamais aucun ouvrage en peinture n'a produit de loin un plus grand effet que celui-ci, dont les figures hardies et la variété des attitudes le firent regarder comme une chose aussi extraordinaire que peu commune. Et quoiqu'il n'en reçut pas alors beaucoup d'éloges, on en reconnut avec le temps le vrai mérite, car il n'est pas possible de porter à un plus haut degré l'accord de la couleur. Les parties éclairées au-dessus desquelles, boum, boum, boum. Les parties éclairées au-dessus desquelles frappe la plus grande lumière se dégradent peu à peu avec autant de douceur que d'union vers les parties obscures. Et le reflet des ombres est observé avec une telle intelligence que les figures se font relief l'une à l'autre. Cet ouvrage, enfin, est si surprenant qu'on peut dire qu'il n'y en a pas un parmi ceux des plus grands maîtres qui soit conçu avec plus de jugement que d'habileté. Il peignit à Saint-Laurent pour Charles Ginoret le mariage de la Vierge, qui fut regardé comme une très belle chose. À la vérité, il avait un faire si facile que personne n'a jamais pu le surpasser de pratique et de dextérité, ni même en approcher. Son coloris était aussi doux que ses draperies variées avec grâce. Aussi, le plaisir qu'il goûtait dans ce genre de travail le rendit toujours très recommandable. Celui qui verra cet ouvrage reconnaîtra toute la vérité de ce que j'avance ici, en examinant les parties nues et celles de l'anatomie qui sont parfaitement entendues. Les femmes y expriment toutes les grâces possibles, et la disposition des draperies en est bizarre et singulière. L'air doux et agréable que l'on remarque dans ces têtes de vieillards, de femmes et d'enfants ne le firent pas moins considérer. Il avait un tel génie que ses compositions marchaient rapidement et il étonnait par sa facilité autant que par sa grâce. Il peignit aussi pour Jean Bandini un tableau avec de très belles figures nues dont le sujet est tiré de l'histoire de Moïse lorsqu'il tue l'Égyptien. Ce tableau fut, je crois, envoyé en France. Il en fit de même un autre pour Jean Cavalcanti qui passa en Angleterre. Il représente Jacob à qui ses femmes offrent à boire de l'eau de la fontaine. On le jugea divin, tant à cause des parties nues que des grâces qu'il mit dans les airs de femme, qu'il s'est toujours plu à vêture de linge léger, d'ajustement sur les épaules, ainsi qu'à les coiffer avec des tresses. Leroux, lorsqu'il faisait cet ouvrage, habitait le faubourg des Teinturiers, dont les maisons donnent sur les jardins des frères de Sainte-Croix. Il s'amusait d'un gros singe dont l'esprit ressemblait plutôt à celui d'un homme que d'un animal. Aussi l'aimait-il comme lui-même et l'employait-il à plusieurs usages, d'après l'intelligence singulière qu'il lui avait reconnue. Il arriva un jour que cet animal se passionna pour un de ses élèves qui s'appelait Baptiste, d'une très belle figure, et au signe duquel le singe dominait tout ce que son petit Baptiste désirait. Comme il y avait du côté des chambres de derrière qui donnaient sur le jardin des frères une treille du jardin, chargée de très gros raisins, dit Sainte-Colombe, ces jeunes gens, au moyen d'une corde, faisaient descendre le singe de la fenêtre qui était éloignée de la treille, et ensuite ils le retiraient les pattes pleines de raisins. Le gardien, s'apercevant que sa treille se dégarnissait, ne sachant d'où cela pouvait provenir, et soupçonnant que ce pouvait être des rats, se mit en embuscade, et ayant aperçu le singe du roux y descendre, il se livra tout entier à sa colère, prit une perche à deux mains et courut à lui pour le bastonner. Le singe, s'étant aperçu que s'il remontait ou s'il restait en place, il en serait frappé, commença en sautillant à détruire la treille. Ayant eu l'idée de vouloir se jeter sur le dos du frère, il saisit les deux dernières traverses qui en formaient le cintre. Tandis que le frère dirigeait sa gaule, le singe secoua tellement la treille qu'il fit sortir de leur trou les perches et roseaux dont elle était construite, de manière que le singe et la treille lui tombèrent sur le dos. Le frère criant alors au secours, la corde fut tirée par Baptiste et les autres qui rentrèrent le singe sain et sauf dans la chambre. Aussi, le gardien s'étant éloigné ayant monté sur sa terrasse tint des propos peu ordinaires et poussé de colère s'en alla méchamment au tribunal des huit à Florence dont on redoute les jugements. L'affaire y étant portée, le roux fut cité et par forme de plaisanterie, on condamna le singe à avoir en arrière un contrepoids afin qu'il ne pût dorénavant sauter sur les treilles. Le roux lui fit alors un rouleau qui tournait avec un fer, de manière qu'il pût aller et venir dans la maison, mais ne point sauter dehors. Le singe, se voyant condamné à un tel supplice, parut deviner que le frère en avait été cause. Aussi, s'exerçant chaque jour, sautant de pas en pas, en soutenant avec ses pattes son contrepoids et se reposant souvent, il vint à bout de son dessein. S'étant un jour détaché, il sauta de toit en toit, et tandis que le gardien était à chanter vêpres, il gagna celui de sa chambre, lâcha alors son contrepoids et exécuta une danse si agréable qu'en une demi-heure, il en brisa toutes les tuiles. Enfin, de retour à la maison, on entendit 3 jours après, par un temps de pluie, les plaintes du gardien. Le roux, ayant terminé ses travaux, s'en alla à Rome avec Baptiste et le singe. On l'y attendait avec d'autant d'impatience qu'on y avait vu quelques dessins de lui dont on avait été émerveillé, attendu que cet artiste dessinait d'une manière divine et avec grande netteté. Il y exécuta dans l'église de la paix, au-dessus des tableaux de Raphaël, un ouvrage le plus faible qu'il fit pendant sa vie. Je ne puis l'attribuer qu'à ce que cela est arrivé à beaucoup d'autres, et ce qui nous paraît aussi caché qu'admirable dans la nature. C'est que celui qui change de pays ou de lieu semble tellement changer de nature, de faculté, de mœurs, d'habitude, de personne, qu'on le prendrait souvent pour un autre, tant il se trouve étonné et hors de lui-même. C'est ce qui put arriver au roux étant à Rome, en voyant ses chefs-d'œuvre admirables, tant en architecture, sculpture, peinture, ainsi que les statues de Michel-Ange, qui peut-être le mirent hors de sa sphère ordinaire. Ce furent aussi ses chefs-d'œuvre qui firent fuir de Rome frère Barthélemy de Saint-Marc et André d'Elsarte, sans y laisser aucun de leurs ouvrages. Au surplus, quelqu'un fut la cause. Le roux ne fit jamais rien d'aussi mauvais, se trouvant surtout en parallèle avec les peintures de Raphaël. Dans ce même temps, il fit pour l'évêque Tornabuoni, son ami, un très beau Christ mort, soutenu par deux anges. Ce tableau appartient aujourd'hui aux héritiers de Monseigneur de la Casa. Il fit aussi pour Baviera des dessins propres à être gravés, représentant tous les dieux, particulièrement Saturne se changeant en cheval, Pluton en levant Proserpine. Ils l'ont été ensuite par Jacques Caraglio. Il exécuta une ébauche de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui est aujourd'hui dans une petite église sur la place des Salviati à Rome. Dans ces entrefaites, le 5 de cette ville étant survenu, le pauvre roux fut fait prisonnier par les Allemands qui les maltraitèrent beaucoup, car ils le dépouillèrent depuis les pieds jusqu'à la tête, lui firent porter les fardeaux et débarrasser presque toute la boutique d'un charcutier, de manière qu'il arriva avec peine à Pérouse, où il fut reçu avec caresse par le peintre Dominique Paris, qui lui donna de quoi se vêtir. Le roux, en reconnaissance, lui fit le dessin d'un tableau des mages que l'on voit chez lui et qui est regardé comme une très belle chose. Il n'y resta pas longtemps, parce qu'ayant appris que son grand ami, l'évêque Tornabuoni, avait fui comme lui pour se retirer au bourg, il alla l'y rejoindre. À cette époque, y habitait aussi Raphaël d'Alcole, peintre et élève de Jules Romain, que la confrérie des Battuti, secte des pénitents, avait choisi pour exécuter à peu de frais dans l'église de Sainte-Croix un tableau. Cet artiste, honnêtement, en abandonna l'exécution au roux afin qu'il restât dans cette ville quelque chose de lui. La confrérie s'en fâcha, mais l'évêque le protégea. Aussi, ce tableau qui représente une déposition de croix, étant terminé, le mit en réputation et fut placé dans cette église. Ce morceau est aussi beau que rare, tant par la vérité avec laquelle est rendu l'effet des ténèbres qui régnèrent au moment de la mort du Christ, que parce qu'il fut exécuté avec un très grand soin. On lui donna ensuite à faire un tableau dans la ville de Castello, mais voulant y travailler, tandis qu'au maçonnet un toit tomba, brisa son ouvrage, et le roux ayant été atteint, fut attaqué d'une fièvre si violente qu'elle le mit aux portes de la mort, ce qui fut cause qu'il se fit transporter de Castello au bourg. Sa maladie continuant, accompagnée d'une fièvre carte, il s'en alla ensuite au village de Saint-Étienne prendre l'air, et en dernier à Arezzo, où il fut reçu chez Benoît Spadari, qui, conjointement avec Jean-Antoine Lapoli Arétin et tous leurs parents et amis, s'employèrent à l'effet de lui faire peindre à fresque, à Notre-Dame des Larmes, une coupole, dont l'exécution avait déjà été confiée à Nicola Soggi, peintre, et pour qu'un tel ressouvenir existât dans cette ville, ils lui allouèrent 300 écus d'or. Aussi, le roux commença-t-il des cartons dans une chambre qu'il lui avait destinée dans un endroit appelé Murello. C'est là qu'il en fit 4. Dans l'un, il représenta Adam et Ève liés à l'arbre du péché. La Vierge leur arrachant de la bouche leur propre faute, figurée par cette pomme et ayant le serpent sous les pieds. Il peignit aussi Apollon et Diane, nus dans les airs, voulant faire entendre par là que les vêtements de la Vierge participent du soleil et de la lune. Dans l'autre, quand Moïse transporta l'arche d'alliance figurée par la Vierge entourée de 5 vertus. Dans un autre est le trône de Salomon, représenté aussi sous la figure de la Vierge, à qui s'adressent ceux qui ont recours à elle pour en obtenir des grâces, ainsi que d'autres choses singulières qu'inventa l'ingénieux Jean Polastre, chanoine arétin, ami du roux, lequel, à sa prière, fit une très belle esquisse de tout l'ouvrage qui est aujourd'hui dans ma famille à Arezzo. Il fit aussi pour cet ouvrage une étude de nu que l'on peut regarder comme la chose la plus rare, et l'on doit regretter que cette coupole n'ait pas été exécutée, car s'il l'eût peint à l'huile, aussi bien qu'il avait à le faire à fresque, on eût pu dire alors que c'était véritablement un prodige. Mais n'ayant jamais pu souffrir de travailler à fresque, il mit de la lenteur à achever ses cartons, pour confier à Raphaël Dubourg et autres cet ouvrage qui n'eut pas lieu. Comme il était fort obligeant, il fit à cette époque beaucoup de dessins à Arezzo et aux environs, des projets de tableaux et de bâtiments. Pour les directeurs de la fraternité, il fit celui de la chapelle située au bout de la place où se voit aujourd'hui la Sainte Face. Il leur avait aussi fait le dessin d'un tableau qu'il s'était chargé d'exécuter en dedans de cette chapelle, représentant une Vierge sur la draperie de laquelle on aperçoit une multitude. Ce dessin, d'après quoi le tableau n'a pas eu lieu, est dans notre collection avec beaucoup d'autres très beaux de Roux. Pour en revenir au tableau qu'il devait terminer à Sainte-Marie-des-Larmes, Jean-Antoine Lapoly Arétin, son intime ami et qui lui prouva toujours beaucoup d'attachement, en fut le garant. Mais, en 1530, la ville de Florence étant assiégée, et par le peu de prudence du pape Altoviti, les Arétins étant restés libres, en attaquèrent et détruisirent la citadelle. Cette nation, voyant de mauvais œil les habitants de Florence, le Roux ne voulut pas s'y fier, et s'en alla au bourg du Saint-Sépulcre, laissant ses cartons et dessins dans la citadelle, parce que ceux qui lui avaient commandé le tableau à Castello voulurent qu'il le terminât. Mais se rappelant son accident dans cet endroit, ils ne se soucièrent pas d'y retourner et acheva ainsi leur tableau au Dibourg. Il ne voulut jamais leur donner la satisfaction de juger de ses premières idées. Il y représenta une quantité de personnes et un Christ dans les airs adoré par quatre figures. Il fit aussi des morts, des bohémiens. Enfin, les choses du monde les plus extraordinaires. Et sauf la beauté achevée de ses figures, la composition de ce tableau s'applique à toute autre chose qu'à l'idée de ceux qui le lui avaient commandé. Dans ce même temps, il exhuma des corps dans l'évêché où il était et fit de très belles études d'anatomie. Le Roux approfondissait sans cesse les connaissances de son art et peu de jours se passaient sans qu'il ne dessinât le nu d'après nature. Ayant toujours eu l'idée de finir ses jours en France et de s'arracher, comme il le disait, à certaines misères et pauvretés dans lesquelles vivent les hommes qui travaillent en Toscane et dans les pays où ils ont pris naissance, il résolut de partir. Et pour paraître en tout plus instruit et plus universel, il avait appris la langue latine lorsqu'un sujet de hâter son départ se présenta. Le jeudi saint, assistant aux ténèbres, un jeune enfant arétin, son élève, jetant ça et là avec une chandelle et de la poire résine quelques flamèches, fut réprimandé et un peu frappé par quelques prêtres. Le Roux, à côté duquel était assis cet enfant, s'en étant aperçu, se leva et alla avec fureur vers le prêtre. Aussi, le bruit augmentant et chacun ne sachant d'où cela provenait, les épées furent tirées contre le pauvre Roux, qui en était venu aux mains avec les prêtres, et qui, ayant pris la fuite, se retira adroitement chez lui, sans avoir été blessé ni atteint par personne. Mais, jugeant du blâme qui pouvait en rejaillir sur lui et son tableau de Castello étant terminé, sans s'embarrasser de ses travaux à Arezzo, pour lesquels il avait déjà reçu plus de 150 écus, ni du préjudice qu'il portait à Jean-Antoine, qui s'en était rendu garant, il partit pendant la nuit. Faisant route de Pesaro à Venise, où, retenu dans cette ville par Pierre Arétin, il lui fit un dessin qui fut ensuite gravé, et qui représente Mars et Venise endormis, ainsi que les grâces et les amours qui le dépouillent et lui enlèvent sa cuirasse. Il quitta Venise pour aller en France, où il reçut beaucoup d'accueil de ses compatriotes. Il y fit quelques tableaux qui furent placés dans la galerie de Fontainebleau et qu'il donna au roi François Ier. Ses ouvrages plurent infiniment à ce monarque qui goûta encore davantage la présence, le ton et la conservation du Roux. Cet artiste était de grande taille. Il avait, conformément à son nom, les cheveux roux. Il était sévère, réfléchi dans toutes ses démarches et brillé par beaucoup de jugement. Le roi lui ayant aussitôt accordé une pension de 400 écus et lui ayant donné une maison à Paris, qu'il habita peu pour être plus de temps à Fontainebleau où il avait un logement et où il vivait en seigneur, le fit aussi intendant général de tous les bâtiments, peintures et autres embellissements de ce château. Le Roux commença d'abord une galerie sur la cour basse qu'il ne voûta pas, mais dont le plafond était lambrissé et à très beaux compartiments. Il en annostuque les parties latérales avec des distributions bizarres et singulières, et fit plusieurs espèces de corniches ciselées et des figures dans les grandes parties d'appui. Il décora le dessous de ces corniches et les intervalles de ces parties d'appui de très riches festons en stuc, d'autres en peinture représentant au naturel de très beaux fruits et des feuillages de toute espèce. Ensuite, dans un grand espace, il fit peindre d'après ses dessins, si l'on m'a dit la vérité, environ 24 sujets à fresque. Je crois des actions d'Alexandre le Grand en faisant lui-même, comme je l'ai déjà dit, tous les dessins en des trempes et de clair-obscur. Dans les deux extrémités de cette galerie sont deux tableaux à l'huile, dessinés et peints de sa propre main, avec tant de perfection qu'il est difficile de voir rien de mieux en ce genre. Dans l'un, il a représenté Bacchus et Vénus avec un art et un jugement étonnants. Le Bacchus est un jeune homme nu, si souple, si fin et si délicat, qu'il paraît véritablement de chair et palpable, enfin, plutôt vivant que peint. Alentour sont quelques vases d'or, d'argent, de cristal et de diverses pierres très fines, d'un style si extraordinaire que chacun reste étonné en réfléchissant à l'invention et au génie qui règne en cet ouvrage. Il y a aussi parmi d'autres choses un satyre qui lève une partie du pavillon. Sa tête au caractère de bouc est d'une beauté admirable. Il semble rire surtout et exprimer combien il est content de voir un aussi beau jeune homme. On aperçoit encore un enfant à cheval sur un très bel ours, ainsi que beaucoup d'autres ornements très beaux et très agréables. Dans l'autre est un Cupidon et une Vénus avec d'autres belles figures. Mais ce fut à celle de Cupidon que le roi s'attacha le plus. Il supposa un enfant de 12 ans, mais adulte, ayant les traits plus formés qu'on ne les a à cet âge, et achevé dans toutes ses parties. Ses ouvrages ayant infiniment plu au roi, il prit le roux dans la plus grande affection, et peu de temps après, lui donna un canonicat de la Sainte-Chapelle à Paris, en y joignant des rentes et autres avantages. Aussi, le roux vivait-il en seigneur, ayant à son service grand nombre de domestiques et de chevaux. Il tenait table ouverte, comblait d'honnêteté toutes ses connaissances et amis, et principalement les Italiens qui arrivaient dans ce pays. Il fit ensuite une autre salle, appelée le pavillon, parce qu'elle en a la forme, et qu'elle est située au-dessus des autres appartements. Il la décora depuis le haut jusqu'en bas de divers et beaux ornements de stuc, de figures de ronde bosse placées à égale distance avec des festons, des enfants et toutes sortes d'animaux. Dans des compartiments, il peignit à fresque et représenta ainsi tous les dieux et déesses de l'Antiquité. Enfin, au-dessus des fenêtres est une frise très riche et décorée de stuc mais sans peinture. Il exécuta ensuite, dans plusieurs chambres, étuves et autres appartements, une quantité de peintures et d'ouvrages en stuc dont une partie a été gravée, lesquelles sont très agréables et d'une très grande beauté. Le roi fit aussi beaucoup de dessins de salières, de vases, de bassins et autres choses extraordinaires que François Ier fit exécuter en argent et dont les détails deviendraient trop longs. Il suffit de dire qu'il composa des dessins tant pour former au roi un buffet que pour ce qui servait à carapaçonner les chevaux dans les triomphes, les mascarades. Enfin, tout ce que l'on peut s'imaginer avec des idées si étranges et si extraordinaires qu'il est impossible de mieux faire. L'an 1540, lorsque l'empereur Charles Quint vint en France se rapportant à la bonne foi du roi, il fit à Fontainebleau, n'ayant que 12 personnes avec lui, la moitié de toutes les décorations qu'ordonna François Ier pour recevoir cet empereur. François, Primatice de Bologne, fut chargé de l'autre moitié. Mais ce que fit le roux en arc de triomphe, statue colossale et autre chose semblable, fut jugé être ce qu'on avait vu jusqu'alors de plus étonnant. Après sa mort, le Primatice détruisit une grande partie des appartements qu'il avait construits à Fontainebleau pour élever un bâtiment neuf et plus considérable. Laurent Aldino, Florentin, maître François d'Orléans, maître Simon de Paris, maître Claude, aussi de Paris, maître Laurent Picard, et beaucoup d'autres travaillèrent avec le roux aux ouvrages de suc et de relief cités ci-dessus. Mais parmi les autres artistes, ce fut ceci qu'il chérit davantage. Le plus habile de tous fut Dominique del Barbieri, peintre très expérimenté dans les travaux en stuc, grand dessinateur, ainsi qu'on le voit dans les ouvrages gravés qui peuvent être mis au nombre des plus estimables. Les peintres aussi qu'il employait dans les 10 ouvrages de Fontainebleau furent Luc Penny, frère de Jean-François di Lofatore, qui fut disciple de Raphaël d'Urbain, Léonard Flamand, peintre très habile, qui suivait entièrement le style et la couleur du roux, Barthélemy Mignatti de Florence, François Caccianimici et Jean-Baptiste de Bagnacavallo. Ces derniers l'aidèrent, tandis que le Primatice, par ordre de sa majesté, alla à Rome faire mouler le Laocoon, l'Apollon, et beaucoup d'autres antiquités rares pour les couler en bronze. Je passerai sous silence les sculpteurs en bois, charpentiers, menuisiers et beaucoup d'autres artistes qu'employa le roux dans ses travaux, quoique plusieurs d'entre eux exécutassent des ouvrages dignes de beaucoup d'éloges. Le roux fit de sa propre main un Saint-Michel, qui est regardé comme chose rare. Il peignit pour le connétable un Christ mort d'une grande beauté, qui est au château des Coins, et fit aussi pour François Ier les choses les plus rares au vermillon. Il s'occupa ensuite d'un recueil d'anatomie pour le faire graver en France, dont nous possédons quelques morceaux de sa main dans notre collection de dessins. On trouva aussi, après sa mort, parmi d'autres choses, deux très beaux cartons. L'un représente une Leda qui est un ouvrage unique, et l'autre la Sibylle Tiburtine, qui montre à l'empereur Octavien la Vierge rayonnante de gloire, tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Dans ce dernier, il représenta le roi, la reine, leur garde et le peuple. Enfin, une quantité immense de figures d'une si grande perfection, que l'on peut dire avec vérité que ce fut un des plus beaux morceaux que jamais fit le roux. Ces ouvrages et beaucoup d'autres que l'on ne connaît pas l'avaient rendu si cher à François Ier que peu de temps avant sa mort, il jouissait de plus de 1 000 écus de rente, sans compter les appointements de sa place qui étaient très considérables. Aussi vivait-il plus en prince qu'en artiste, ayant à son service grand nombre de domestiques, chevaux de selle, sa maison garnie de tapisseries, argenteries et autres meubles de prix. Mais la fortune, qui jamais ou rarement ne sourit pendant longtemps à celui qui trop s'y fit, le mit dans la position la plus fâcheuse. Quelques centaines de ducats lui ayant été volés, et jetant ses soupçons sur François Pellegrin de Florence, qui chérissait la peinture et était son grand ami, il le livra à la justice et le fit appliquer à la question. Celui-ci, reconnu innocent, fut mis en liberté. Et justement indigné de la lâche accusation du roux, il fit paraître un libelle, d'après lequel son adversaire se trouva non seulement sans défense, mais aussi avoir attaqué son ami dans son propre honneur. Le roux, sentant bien que se dédire ou continuer ses poursuites diffamantes le déclarait homme aussi méchant que perfide, résolut de se donner la mort plutôt que d'être puni. Un jour que le roi était à Fontainebleau, il envoya chercher à Paris par un paysan un poison très subtil, sous le prétexte de s'en servir pour ses couleurs ou vernis, mais étant bien dans l'intention de s'empoisonner. Ce paysan s'en revenant, et ayant posé son pouce sur le goulot de la fiole, soigneusement bouché avec de la cire, manqua perdre le doigt par l'effet violent de ce poison, qui peu de temps après et en peu de moments termina la vie du roux qui était en pleine santé. Le roi, ayant appris cette nouvelle, en fut d'autant plus touché qu'il était fermement persuadé d'avoir perdu le plus excellent artiste du temps. Mais pour que les travaux n'en souffrissent pas, il en confia la conduite à François Primatice de Bologne, qui avait déjà fait pour lui plusieurs ouvrages, et lui donna une bonne abbaye, ainsi qu'il avait fait un canonicat en faveur du roux. Cet artiste mourut l'an 1541, laissant à ses amis et aux artistes infiniment de regrets, et leur apprenant combien on gagne auprès d'un prince universel, affable et doux, tel que le fut François Ier qui, à beaucoup de titres, a mérité et mérite d'être regardé comme un très grand roi. Fin de la vie de Maître Roux.